Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour cette émission Histoire de France et d'ailleurs en compagnie de René-Joseph Irmana. Aujourd'hui, il va nous parler de Conan Doyle, tout simplement le père de Sherlock Holmes. Et on retrouve tout de suite René-Joseph. Bonjour.
Bonjour. Bon, en fin d'émission, je ferai ma petite séance que je faisais jadis, petite séance confession pour les petits rectificatifs ou les incomplétudes, je dirais, de la précédente émission, voire là dans la dernière, celle de mardi. Il y a eu quelques cafouillages techniques qui ont fait que les phrases ont été mangées, certaines phrases, et le résultat s'avérait un petit peu erroné. Mais bon, je donnerai quelques petits points, précisions, et je répète, c'est très léger, quoi. Mais je le faisais autrefois, c'est utile. C'est la séance. Je fais amende honorable, je viens à Canossa, enfin, je vide mon sac. En confession, quoi. Voilà. Et donc là, je vais annoncer par ailleurs des titres. Vous savez, des titres d'émissions, mais ça sera des émissions phares, si je puis dire. Et donc là, ça n'est pas exhaustif. Là, on traite un sujet que je n'avais pas annoncé, mais c'est les autres, hein, puisque l'année est relative. Enfin, c'est pas si long, mais on a le temps. Elles seront en leur temps préparées. Elles sont sur le métier, les émissions que je vous ai annoncées, voilà, qui demandent de la documentation, etc. Je suis en train de la rassembler. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Conan Doyle, vous savez, l'auteur, le père de Sherlock Holmes. Hein. On peut faire une petite comparaison, il y a eu beaucoup d'autres auteurs britanniques du 19e, plus récemment, enfin le 20e, en l'occurrence le 20e, on peut faire le parallèle un peu avec Agatha Christie. On avait fait une émission sur Agatha Christie, qu'elle avait créé Hercule Poirot, voilà, le fameux Hercule Poirot. Et là, Sherlock Holmes, c'est un peu le pendant, et la créature de Conan Doyle. Hein, voilà. On a souvent oublié Conan Doyle, hein, mais on se rappelle de Sherlock Holmes, hein, qui est toujours vivant. Voilà. Donc, qui est-il, Conan Doyle? Il est né le 22 mai 1859 à Édimbourg, hein, en Écosse, donc, d'une famille catholique. Alors, son grand-père c'était un caricaturiste célèbre, qui avait des lecteurs, d'ailleurs des têtes couronnées, etc. Et d'ailleurs, l'un des fils du grand-père de Conan Doyle a pris la suite. Mais le père de Conan Doyle, le deuxième fils, s'appelle Charles. Charles, et lui, il est simplement, il aura une carrière, on peut dire, de fonctionnaire en quelque sorte. Hein, voilà. Il sera conservateur des monuments historiques de la ville d'Édimbourg. Hein, voilà. Et sa mère, Mary Foley, donc F-O-L-E-Y, ils se sont mariés en 1855. Alors, ils auront 5 enfants, donc, dont Arthur, le deuxième. A préciser que sa mère, son père a peu d'influence sur lui. Il est assez terne, à la différence du grand-père et de l'oncle, hein, si vous voulez, qui sont des caricaturistes. Je répète, célèbre et mordant. Et là, le père qui est, je dis, fonctionnaire, eh bien, il n'a pas une grande influence sur son fils. C'est surtout sa mère qui va le marquer. D'ailleurs, pour deux raisons. Parce qu'elle est passionnée, elle est cultivée. Elle est passionnée notamment d'histoire, et notamment du Moyen-Âge. Elle va insuffler cette passion. Et c'est une conteuse aussi, elle raconte de belles histoires du passé, voilà, à son fils et à ses enfants. Et il va, je répète, en être imprégné. Et là, un côté aussi Blanche de Castille, quoi. J'ai mis Blanche de Castille pour servir de pense-bête, et parce qu'elle est très rigoureuse sur le chapitre de l'honneur, de l'honnêteté. Voilà. Et elle dit notamment, c'est un souvenir de son fils. Il lui dit, je préférerais vous voir dans la tombe, en parlant de ses enfants, que coupable d'une ignominie, quoi, voilà, coupable d'une faute grave. Voilà. Et ça évoque le souvenir de la mère de Saint-Louis. Voilà. Alors, il suit des études, à l'époque plus brillante, on va dire, où c'est un bon élève, public school, c'est ce qui, comme leur nom ne l'indique pas, on le sait, public school, c'est des écoles privées, hein, c'est un collège de jésuites, à Stonyhurst, donc et en Écosse. Il a régime spartiate. On se lève à 5 heures du matin, comme dans ces. On travaille dur, la discipline est sévère. Taper sur les doigts, c'est au sens propre. Il y a des sanctions corporelles, encore à l'époque. Mais bon, il n'est pas malheureux. C'est le régime de tous. Il est travailleur. Il passe beaucoup de temps dans la salle de lecture, mais enfin, pour des lectures studieuses, dans la bibliothèque du collège. Il est intelligent. Et puis alors aussi, il est sportif. Ça, c'est une tradition britannique. Une tradition notamment victorienne, on va dire l'effort physique. Voilà. Et il est par exemple capitaine de l'équipe de cricket. Voilà. Ensuite, il fera alors un autre séjour. Là, c'est aussi sur le milieu qui fait que il a une éducation choisie, parce qu'il va au Tyrol, en Autriche, fréquenter un autre collège jésuite. Voilà. Feldkirch, voilà. Il sera là aussi un élève studieux et en même temps très dynamique. Alors, il fait du patinage, il fait de la marche, et puis il est très sociable, on va dire. Il fait partie de la fanfare locale. Si on peut. Et il joue du bombardon. Alors, je ne sais pas si c'est un instrument d'époque, enfin, j'imagine un instrument de clic, enfin, voilà. Et il est beau, c'est un beau garçon. Il est sportif, on l'a dit, mince, bien charpenté, intelligent, souriant, il a tout sourire, voilà. Et les jeunes filles n'ont Dieu que pour lui. Et puis il revient donc à Édimbourg, et là il entre à la faculté de médecine, prestigieuse faculté écossaise d'Édimbourg. Alors, parallèlement, il y a plusieurs facettes dans sa personnalité, le côté studieux, sportif, le côté aventureux, c'est un aventurier aussi. Alors là, par exemple, c'est dans son cursus d'études de médecine, il s'engage, c'est une parenthèse, on va dire, un petit peu sabbatique, comme médecin de bord à bord d'un baleinier, en 1880. Qui va sur l'Arctique, il découvre le Grand Nord, il en est ébloui. Alors, si j'ai le temps, je donne des citations. Il éblouit le soleil sur la glace, enfin, superbe. Il y a un côté contemplatif aussi, autant qu'aventureux. Il enverra les récits de ses aventures à la London Society, enfin, un journal, le London Society. Et d'ailleurs, le directeur du journal, vu la qualité des textes, lui conseille d'abandonner la médecine, de laisser de causer sa carrière de médecin pour devenir carrément écrivain. Alors, il devient ensuite. Il finit son cursus de médecine, à l'époque, bien sûr, probablement moins long qu'aujourd'hui. D'abord bachelier, puis ensuite, il sera docteur en médecine. Bon, à l'époque, il est bachelier de médecine et maître en chirurgie. Et là, autre aventure, autre parenthèse, mais celle-ci moins heureuse. Hein. Il s'embarque sur un cargo à destination de l'Afrique, jusqu'à Lagos, à Lagos, au Nigeria. Mais là, c'est pas. D'abord, il est malade. Et puis, deux, c'est un cargo qui amène des passagers. Mais alors, c'est dégueulasse, on va dire. L'ambiance est hideuse. Les armateurs sont des escrocs. Enfin, voilà. Donc, là, c'est pas un bon souvenir. Il revient en Écosse. Alors, il veut s'installer dans son cabinet médical, mais il s'avère que sa mère est veuve, qui a 5 enfants, dont lui. Donc, il faut se serrer la ceinture un peu. Et la famille n'a pas les moyens de l'installer comme médecin, de lui acheter un cabinet médical. Et c'est ses oncles, d'ailleurs, qui lui proposent, sa famille très catholique. Alors, je ne sais pas si c'est une tradition, lui conseille de demander de l'aide aux familles catholiques de la bourgeoisie, je pense, d'Édimbourg, qui connaissent, alors peut-être des emprunts, mais ils se refusent avec hauteur. Là, il a cette dignité que lui a d'ailleurs insufflé sa mère, on va dire, cette droiture, ça sera un homme droit toute sa vie, jusqu'à la mort. Et il refuse avec hauteur, et dans la foulée, si je puis dire, il rejette la religion catholique. Sa famille est très marquée par le catholicisme, et il y a une brouille avec la famille, sauf sa mère, qui est un peu originale aussi, qui a un côté artiste, on le sait, qui lui reste bien sûr éternellement fidèle. D'ailleurs, elle lui disait, surtout ne crois pas à l'enfer. Hein. C'est une anecdote. Là. Donc, ouverture d'un cabinet de médecin. Bon, il arrive à Portsmouth, alors dans le sud de l'Angleterre. Au début, c'est difficile. Les clients, ça ne marchera jamais bien. C'est sa carrière de médecin, jamais. Jusqu'à ce qu'il abandonne. Et, toutefois, ça progresse et il arrive quand même à en vivre. Hein. Sur la durée, au point qu'il peut quand même accueillir son frère cadet Inès, H-I-2-N-E-S, il pourra l'héberger, s'en occuper, voilà, le prendre en charge. Alors, sa vie familiale, il va se marier en 1885. Alors, c'est une rencontre étrange, enfin pas étrange, justement, c'est un petit malade, un enfant malade qui va accompagner et qui meurt dans ses bras, un petit garçon. Et il va se lier avec la sœur aînée de ce petit garçon qui est d'une famille, je ne sais pas si c'est des orphelins ou la mère est veuve. Enfin. Et donc la sœur aînée, qui a une vingtaine d'années, alors c'est une jeune fille toute fragile. C'est assez étonnant. On l'a sur les photos aussi d'époque, il y a des photos, une espèce de poupée, quoi, toute petite. Des petits bras, des petits. Elle est toute tendre, toute douce, elle a un visage poupin. C'est un ange, en quelque sorte. Et c'est pas un coup de foudre, mais c'est la tendresse absolue. Il lui restera fidèle toute sa vie, même quand il aimera une autre femme, on le verra. L'homme droit ne la trompera jamais. Voilà. Il ne se remariera, il ne consommera, si on peut dire, sa relation avec celle pour qui il a eu un coup de foudre plus tard, qu'après la mort de sa femme. Elle s'appelle Louise Hawkins. Et alors elle est aussi, je dis, c'est un ange. Elle est toute douce, toute gentille, généreuse. Et par exemple, quand on entre amis, on rit. Mais dès qu'elle voit qu'il y a un ton de moquerie éventuel, tout de suite son visage se ferme. Voilà. Pardon. Donc, ils auront trois enfants, dont l'aînée Marie-Louise qui naîtra en 1889. Voilà. On va vous passer la première pause, parce que j'ai quelques petits... Il faut que je me reprenne un peu. J'ai un chat dans la gorge. Voilà. Alors, ça sera un extrait du Chien de Baskerville, un film de télévision américain avec Stewart Granger de 1972. Voilà. Qui est sorti en février 1972 de Bernard Fox avec l'acteur, encore une fois, dans le rôle titre Stewart Granger. On se retrouve dans trois petites minutes.
Les dernières nouvelles du jour,
toutes fraîches.
Demandez les dernières nouvelles.
Les belles anguilles.
Je suis le docteur Watson. En 1889, je partageais cet appartement avec Sherlock Holmes. Je participais aussi, jusqu'à un certain point, à plusieurs affaires que devait résoudre Holmes. L'une d'entre elles, qui fut une des plus sanguinaires et des plus effrayantes, eut comme point de départ une canne oubliée par un visiteur inconnu. Il s'agissait de l'affaire que j'avais appelée la malédiction du chien des Baskerville. D'après un manuscrit ancien, la malédiction frappa tout d'abord Sir Hugo Baskerville, il y a une centaine d'années, en l'an de grâce 1762.
Donc, son mariage, le 6 août 1885, avec la très douce et un petit peu une poupée de douceur, de gentillesse, Louise Hawkins. Voilà. Et il a donc 25 ans, voilà. 26 ans. Là, on va aborder maintenant cette carrière d'écrivain. Ils ont, je l'ai dit, 3 enfants. Il va un temps s'engager, pratiquer à la fois l'écriture et la médecine. Alors, première œuvre, c'est l'écriture, sa vocation, on le sait. Une étude en rouge, alors, qu'il écrit un an après, en 1886, c'est un polar. Et il n'aura pas un succès extraordinaire, mais c'est marquant parce que c'est là que naissent Holmes et son compère Watson, voilà, le couple mythique. Ils apparaissent là. Ensuite, il écrit, c'est sa vraie passion d'écriture, hein, en réalité, plus peut-être que les polars, les romans policiers, c'est les romans historiques. Alors il écrit par exemple Moka Clark, donc c'est un roman historique qui aura, ou Mika Clark, hein, voilà, là qui aura du succès. Ça marche. Il y a d'autres auteurs contemporains comme Walter Scott, Ivanhoe, etc. de l'époque, et les romans historiques sont très en vogue. Et puis il pense, il est passionné de généalogie, et il a une généalogie très ancienne, dit-on, hein, aussi bien côté de la Normandie, duc de Normandie, que je sais plus, de la Scandinavie, enfin voilà. Donc c'est des ancêtres très éloignés mais un peu légendaires. Il écrit aussi La Compagnie Blanche, alors toujours même genre historique, succès. Et puis toujours à la fois les voyages et les voyages studieux. Alors rubrique médicale encore, c'est le dernier, je pense, la dernière initiative en la matière. Il fait un voyage d'études médicales en Autriche avec Louise. Voilà. Mais in fine, il va cesser son activité, il va fermer son cabinet. Il avait un cabinet à Londres, médical, il le ferme, et il va, suivant les conseils qu'il avait reçus, on se souvient d'un directeur de journal, eh bien, il va se donner totalement à l'écriture et à plein temps. Voilà. Et donc, ça sera, je répète, à la fois les romans policiers avec le personnage, surtout de Sherlock Holmes, qui va devenir immortel et auquel on identifie Conan Doyle. Beaucoup l'ont oublié, Conan Doyle, mais Sherlock Holmes, bien sûr, il est éternel, il est toujours vivant, puisqu'il y a encore des adaptations ou des œuvres nouvelles, des téléfilms, enfin, avec ce personnage. Voilà. Toutefois, il continue les romans historiques, alors ça sera un écrivain très prolixe, Les Réfugiés, hein, et puis des contemporains, histoire contemporaine sur la Grande Chambre, il écrira aussi sur la guerre de 14, on va le voir, une somme, hein, sur la guerre de 14. En 1892, alors là, justement, il en a un peu marre d'être un peu, il devient prisonnier, comme certains acteurs deviennent prisonniers d'un personnage, ils n'arrivent pas à s'en libérer. Là, c'est l'auteur qui est un peu gêné par sa créature. Et alors, il fait mourir Holmes, voilà, en 1892, dans le dernier problème, le roman. Alors, Holmes chute d'une falaise, enfin, etc. Et, alors, test de popularité, même si ce n'est pas voulu, on le sait, il y a une foultitude de réclamations. Les lecteurs lui écrivent de partout, parce qu'ils veulent retrouver Holmes. Et donc, il va le faire ressusciter. En 1894, il le ressuscite dans la maison vide. Voilà. Et alors, problème familial, c'est la seule peine que Louise lui fait, eh bien, c'est qu'elle est malade. Elle est victime, comme souvent à l'époque, de la tuberculose. Voilà. Donc, le couple va en Suisse. On lui donne peu de jours à vivre, en fait, ou une vie brève, mais en tant que médecin et en tant que époux, aimant, sa femme, cet amour presque, je pense, fraternel aussi, mais voilà, il va tout faire pour la sauver, et il l'emmène, ils vont en Suisse, à Davos, hein, pour profiter de ce climat, je pense, climat sec, enfin, climat, voilà. Et elle vit vivre pendant 13 ans, hein, Alors, à Davos, là aussi, le sportif, il pratique les patins de neige. Et c'est ici, là, le ski de fond, voilà, qui était pas pratiqué à l'époque, pas connu. Voilà. Donc, toujours, malgré tout, les voyages, c'est un aventurier. Les livres en nombre, les conférences, centaines de conférences. Par exemple, en 1894, il fait un voyage triomphal aux USA. Il a beaucoup de succès aux USA et c'est un américanophile, on dirait. Il fréquente aussi, il sera pour Hollywood, la naissance d'Hollywood. Enfin, à l'époque, c'est le cinéma muet, bien sûr. Il rencontre un acteur célèbre de l'époque, William Gillette, en 1899. Alors, William Gillette lui demande de monter l'autorisation de monter une pièce sur Sherlock Holmes au théâtre, cette fois. Et Conan lui dit, je n'ai aucune restriction, vous faites ce que vous voulez de mon personnage, je m'en fous. Alors, William Gillette, donc Gillette va monter une pièce, alors là il fait marier Sherlock Holmes, alors que Sherlock Holmes est un éternel célibataire, hein. D'ailleurs, comme le Hercule Poirot d'Agatha Christie, Sherlock Holmes est un personnage mystérieux, voué au célibat. Alors on peut se poser des questions sur sa sexualité, le mystère et l'ambiguïté est entretenu. Et c'est un succès, cette pièce, puisqu'elle va rester à l'affiche pendant 30 ans. Alors, un petit portrait au passage de ce Conan Doyle de 40 ans. Eh bien, il s'identifie assez bien, justement, à son personnage. Il l'incarne assez bien. Alors, il est sportif, il se tient droit, vigoureux. C'est la droiture, mais avec ce qui est ça, un petit peu de... comment dire, de peu familier, de peu de raideur. Par exemple, il est très tourmenté, il est ombrageux, c'est l'un de ses fils qui le raconte dans ses mémoires. Par exemple, il s'isole parfois quand il a un tourment dans son bureau, et il reste mutique pendant 2-3 jours. Voilà. De même pour écrire, quand il est sur un roman, il se réfugie dans une maison isolée, à proximité, où il est seul, voilà, et il s'y enferme. Et puis il est très sourcilleux, il a un quant à soi très vigilant, si on peut dire. Attention, l'appeler par son prénom, c'est une insulte. Lui mettre la main dans le dos, il se rétracte, et il faut garder la distance. Voilà. Et c'est la dignité, côté britannique encore, je pense. Enfin, alors, la vie sentimentale, il va rencontrer, je l'ai évoqué, en 1897, une jeune fille, Jeanne Lecky. Alors Jeanne, ça s'écrit comme Jean, c'est le prénom, mais c'est Jean Lecky, L-E-C-K-I-E. Et donc, c'est un amour platonique. Je dis, refuse, il consomme pas. C'est pas une maîtresse. Pendant 10 ans, il le doit à Louise, il s'impose. La fidélité, il a une volonté aussi de faire et un sens du devoir. Il ne la trompera pas, sauf par peut-être l'attirance, mais ce sera uniquement du sentiment. Voilà. Alors par ailleurs, c'est un écrivain engagé, un écrivain, un patriote, autant qu'aventurier. Alors par exemple, à l'âge de 40 ans, en Noël 1899, il part en Afrique du Sud. C'est la guerre des Boers, des Boers, B-O-E-R-S. Hein. Vous savez, ce sont des descendants des colons néerlandais qui combattent l'occupant britannique, hein, puisque c'est une colonie britannique. Et c'est cette guerre des Boers sera conduite avec l'occupant anglais, très violente, et on sait qu'un certain Winston Churchill aussi va s'y illustrer, qui a aussi une dimension d'aventurier, et il fait montre de courage, d'héroïsme. Donc je ne sais pas s'ils se sont rencontrés, quoi, mais bon. Donc là toutefois, on fait appel à ses compétences médicales en tant que dans l'armée, et il est directeur, mais c'est dans le cadre de sa mission, d'un hôpital militaire. Mais pendant les jours de congé, si on peut dire, il veut prendre le baptême du feu, il va au front, quoi, il prend des risques. Voilà. Donc, par ailleurs, journaliste, enfin, il fait fonction de journaliste, d'ailleurs Churchill aussi, on s'est envoyé des papiers, Churchill était un écrivain, on le sait, et puis C'est une aparté. Il a été prix Nobel de littérature, hein, Winston Churchill. Donc, même époque, Conan Doyle envoie ses articles à des journaux où il raconte la guerre de... Voilà. La guerre en Afrique australe, ça sera regroupé, ces articles, dans un volume. Ils seront collationnés sous le titre « La guerre en Afrique australe ». Et il sera critique, notamment vis-à-vis de l'institution militaire, les errements, l'absence de compétences en matière de logistique, les absurdités. Voilà. Churchill aussi, idem. Hein, voilà, il y a un petit parallèle à faire. Toutefois, lorsque la politique britannique, notamment en Afrique du Sud, la politique coloniale, est attaquée de l'étranger par l'Allemagne, par exemple, alors il prend la défense. Hein, et c'est le patriotisme, voilà, et qui se réveille, toujours vigilant, toujours respectueux et fier de son appartenance à la grande nation britannique. Par exemple, il écrit une brochure des causes de la conduite et de la conduite de la guerre, voilà, de la conduite des guerres, voilà. C'est consacré, c'est la défense, c'est un plaidoyer, je veux dire, pour la politique coloniale britannique, voilà. Et à cette époque, il est fait chevalier par le roi Édouard VII, hein, voilà, peut-être en récompense de cette prise de position publique, voilà. Alors, autre aspect de la personnalité, l'homme engagé, il se présente aux élections à Édimbourg deux fois, en 1900 et 1906, élections législatives, mais il sera deux échecs, mais d'un cheveu, hein, des échecs honorables. Et vie privée, Louise meurt le 4 juillet 1906, et il va épouser Jude Lecky, donc un peu plus d'un an après, en 1907, hein, fin 1907. Voilà. Là, il peut se marier, c'est ça de ce remariage. Il a respecté ça. Voilà, il a été fidèle. Il n'a pas de remords à avoir. Il a été parfait pour sa première épouse. Alors là, il va prendre des positions de, je l'ai dit toujours, homme engagé, politique, sur des sujets de politique et de société, tonitruant, souvent à contre-courant de son époque. Par exemple, il est pour le divorce. Alors là, alors qu'à l'époque, c'est l'Église anglicane, aussi bien que l'Église catholique, sont contre. Alors là, il se fait beaucoup d'ennemis. Hein. Le divorce est condamné. Enfin, dans cette Angleterre du 19e. Alors, autre attaque vigoureuse contre le roi des Belges, Léopold II, à propos de la politique coloniale au Congo. Alors, au Congo, colonie belge, ça, les royales cires, je veux dire, du Corbeau, étaient tombés dans l'escarcelle du roi. À titre personnel, quoi. C'était un vrai scandale. Alors, il le qualifie de tous les noms. Enfin, il le qualifie de monstre. C'est des attaques directes. À l'époque, il n'est pas... C'est le seul, hein, qui ose faire ça. Et, par ailleurs, je l'ai dit, il confirme sa passion de l'Amérique, de l'esprit américain. Et il rencontre Theodore Roosevelt, alors l'oncle de Franklin Delano Roosevelt, hein, on sait, l'oncle du Roosevelt qu'on connaît, si on peut dire, on l'a sur les images, qui meurt en 1945, hein, qui sera président de 1920 ou 21 à 1945, puisqu'il n'y a pas de limitation au nombre de mandats. Là, c'est son oncle Théodore. Il le rencontre en 1910 aux obsèques d'Édouard VII. Et il fait un voyage aux USA avec sa femme, avec Jean. Toujours un voyage de beaucoup de succès, il est très bien reçu. Voilà. Par contre, aujourd'hui, ça serait mortel. Hein. Il est plutôt misogyne, on dirait. Alors, c'est le combat des suffragettes en Angleterre à l'époque, pour les femmes demandent le droit de vote. C'est assez violent, hein, d'ailleurs. On pourra faire une émission sur le sujet. C'est Miss Pankhurst, enfin, je crois, sa fille, enfin, qui mène le mouvement. C'est assez violent. Hein. Il y a des... C'est pas comme l'IRA, peut-être, mais il y a des incendies, par exemple. Il y a des incendies criminels de bâtiments publics, débris de vitrines. Hein, ces dames, peut-être avec des hommes aussi, avec des marteaux, au petit matin, elles cassent toutes les vitrines dans une avenue. Tentative d'assassinat du Premier ministre. Encore une fois, c'est pas en gants blancs, hein, forcément. C'est pas en dentelle. Et il est contre. Et il dit qu'il est contre le lynchage. Est-ce de l'humour? Sauf dans le cas des suffragettes. ça, voilà. Par ailleurs, il est aussi francophile. Alors, il approuve l'entente cordiale qui a été initiée par feu Édouard VII. Après, Édouard VII, c'est Georges V qui lui succède. Édouard VII, fils de Victoria et d'Albert, son fils Georges V, qui est le grand-père d'Élisabeth, de l'actuelle reine Élisabeth, dont le fils de Georges V, Georges VI, le père d'Élisabeth. Après la reine d'Édouard VIII, le frère aîné de Georges VI, l'éphémère Édouard VIII. Voilà. Alors, il sent la guerre, dès 1911, il pressent la grande guerre qui va advenir, 1914-18, et il donne des conseils au gouvernement, à l'état-major, conseils probablement pertinents, mais qui ne sont pas écoutés. Enfin, on le remercie gentiment avec un sourire narquois. Des conseils technologiques, par exemple, il conseille de développer les sous-marins. C'est ce que fera l'Allemagne, hein, l'Allemagne qui va couler des bateaux anglais. Bon, il donne des conseils aussi sur la tenue militaire, sur le vêtement, sur placer aussi des canots de sauvetage, voilà, dans les bateaux, dans les navires militaires. Enfin, voilà, des conseils très pratiques, mais qui sont peu écoutés, hein, forcément, si on peut dire. Voilà. Alors, il va écrire, il a 55 ans en 1914, et ses deux frères vont mourir à la guerre, et grand drame aussi, son fils aîné, Kingsley, va mourir. Et il va écrire, relater, d'ailleurs il va faire un reportage, il voulait s'engager, mais bon, on le refuse, à raison de son âge. Il fera un reportage, je crois, en Italie, voilà. Et il rencontrera d'ailleurs en France Clémenceau. Alors là, il n'est pas très avenant, comment dire. L'entretien avec Clémenceau, en fait, ça paraît un peu... bien qu'il soit bavard, hein, notre Conan Doyle, c'est un orateur, c'est un conférencier. Et là, il ne peut presque pas passer un mot lors de l'entretien avec le tigre. Il dit, c'était un torrent, c'était le Niagara, et moi, je n'avais qu'un petit filet d'eau. Donc, il peut à peine ouvrir la bouche, voilà. c'est un certain désappointement. Et il écrira, donc, un ouvrage, là, historique, là, contemporain, Histoire de la Grande Guerre, hein, qui connaîtra un immense succès après 1918. Alors, dans les engagements... il va prendre des engagements concrets. Vous savez, j'avais parlé de Dreyfus avec Émile Zola, ou comme plus antérieurement, Zola avait l'écrivain engagé, hein, et qui a pris des risques à faire Dreyfus. On en avait fait une émission sur le sujet récemment. Il y avait eu Voltaire aussi en son temps. Là, il va défendre des causes de victimes. Là, c'est l'affaire Casement, C-A-S-E-M-E-N-T. Alors, Casement, c'est un personnage qui un original, je crois, qui a vécu à Berlin, où il a fait scandale, ensuite qui est retourné aux États-Unis, parce qu'il faisait vraiment trop de scandales en raison de ses mœurs aux États-Unis, et qui est pro-allemand, c'est un germanophile. Et semble-t-il, il revient en Irlande, il est pour l'Allemagne. Et il vient en Irlande soit pour faire de l'espionnage ou pour susciter des révoltes contre le gouvernement anglais, quoi, voilà. Et là, il est arrêté et il sera condamné à mort, hein, pendant la guerre, donc. Et bien, Conan Doyle va le défendre. Il va notamment initier une pétition qui fera signer par des... Voilà, bien que très patriote, hein, parce que je pense qu'il le connaît, Casement, hein, ils ont eu affaire à... Alors, je ne sais pas si c'est aussi un journaliste ou... Voilà. Il fait partie de ses relations, si on peut dire. Mais ça sera un échec. Sa défense n'aboutira pas, malgré son prestige. Et il sera condamné à mort et pendu. Alors, voilà. L'affaire Casement. Alors, à ce moment, il est une autorité morale importante. Véritablement, il épouse un peu, je l'ai dit, le personnage de Sherlock Holmes. Hein. Il y a une espèce de fusion qui se fait entre le personnage de fiction et l'auteur. Voilà. Alors, autre affaire, alors c'est une pour laquelle il défendra la victime, mais là c'est à l'évidence très certainement un innocent. L'affaire Slater, on peut le citer comme exemple, S-L-A-T-E-R, en 1909. Alors, là c'est une vieille dame qui avait été assassinée à Glasgow. Et on arrête un certain Slater qui fait sans aucune preuve et de façon très hâtive. L'instruction est lamentable, honteuse, le jugement est bâclé et il est condamné à mort. Alors là, Conan va prendre sa défense. Il sent la probable erreur judiciaire. Mais ça va durer quand même à peu près 19 ans. Et il va faire en sorte, par son influence, par son action, que eh bien, ce Slater ne soit pas exécuté. Voilà. Alors, en 1924, donc, Doyle réclame la révision du procès. Alors, dans un premier temps, Slater avait été condamné aux travaux forcés à perpétuité, donc recours pour obtenir la cassation. D'ailleurs, Doyle finance les frais de défense. C'est, je pense, un homme modeste, accusé injuste. Alors, par exemple, la bonne domestique de la vieille dame en témoigne. Elle avait vu, elle avait aperçu, semble-t-il, l'assassin qui ne correspondait pas du tout au profil, au portrait de Slater. Elle n'a pas été écoutée, pas du tout. Hein. On a refusé de cultiver cette piste. Et de même, un témoin déclare, lors de l'enquête menée par Doyle, que, eh bien, on lui a fait signer un procès verbal tout prêt. Il a signé un texte préparé par la police qui ne correspondait pas du tout à ce qu'il avait vu. Hein, voilà. 28 juillet 1928, la cassation est obtenue et in fine, Slater est libéré, mais après près de 20 ans, hein, 1909-1928, après 19 ans d'enfermement. Mais enfin, il a échappé à la mort et il est libre. Voilà. Alors, grande popularité de Conan Doyle, c'est le justicier, mais dans le sens de noble, dans le sens de défense des victimes. Voilà. Autre aspect de sa personnalité, alors là, étrange, il s'oriente vers le spiritisme. Il deviendra un vrai spirit, c'est-à-dire, on sait qu'il est devenu athée, qu'il a ensuite agnostique, bon, c'est-à-dire qu'il doute, il avait rejeté, il est très distancié par rapport à sa religion d'origine catholique, mais là, il s'intéresse à l'au-delà. Il a même une fascination pour l'au-delà, pour le dialogue avec les morts, par exemple. Et il deviendra un vrai spirit, alors on va dire professionnel, dès 1915, un expert en la matière. Il écrit des ouvrages, une nouvelle révélation, par exemple, entre guillemets, en 1918, le message vital, en 1919, une histoire du spiritisme, en 1926, et avec sa fille, Mary, eh bien, ils vont tenir une bibliothèque spirit, enfin une librairie spirit à Londres à partir de 1925. Et il va présider, alors là c'est vraiment une sommité en la matière, le congrès spirit international qui se tient à Paris en 1925. Donc à l'époque, il a 66 ans. Hein. Et on peut citer, on peut faire un petit parallèle avec Victor Hugo. Vous savez, Victor Hugo s'était exilé à Guernesey sous le Second Empire. C'était un opposant. Il avait perdu sa fille. Alors qu'il était à Guernesey, sa fille s'était noyée avec son gendre sur la Seine. Et Hugo pratiquait le spiritisme à Guernesey pour entrer en contact avec les défunts, avec sa fille, son gendre. Voilà. Il y avait aussi, on peut faire là aussi un parallèle. Voilà. Et c'était un aspect, cette richesse de sa personnalité, Conan Doyle. Alors, on s'achemine vers sa fin de vie. Je vais peut-être passer là un deuxième intermède. Alors là, ça sera aussi un extrait d'un film Sherlock Holmes et l'arme secrète, en version française, de Roy William Nell, un film américain de 1942. Alors on va vous passer le générique. Il est sorti en décembre 42 aux USA, de Basil Rathbone. Voilà. C'est ça. Et donc, Roy William Nell est le réalisateur. Et Basil Rathbone, alors je vais dire une bêtise, je pense que ça va être l'acteur dans le rôle-titre. Hein, voilà. Un film ancien, comme on les aime, ces vieux films de 1942, vous passera juste le générique.
Thank you. semblez être des hommes cultivés, de bon goût. J'ai quelques livres rares en édition originale.
Et Sylvia vous embête, hein?
Non, pas du tout. Ces livres m'intéressent beaucoup.
Bon, bon.
Une bière.
Oui, monsieur.
Donc, on va s'acheminer vers sa fin de vie. Il meurt à 71 ans. Donc, toujours ce dynamisme. Le sport, toujours l'activité physique, les voyages, il ne se ménage pas. Et toutefois, le corps ne suit pas. Victime d'une attaque d'apoplexie, le médecin lui prescrive le repos absolu. Mais il fait l'inverse. Il est hyperactif, il court partout. À 71 ans, en 1930, il s'intéresse à la peinture. Voilà. Il prend des cours de peinture. Il a toujours l'esprit en éveil. Je fais une petite comparaison avec George Sand, par exemple, qui a vécu un peu avant, qui est mort vers 1877, je crois. Voilà. Et qui, à 70 ans, se passionnait pour la minéralogie, qui faisait une belle collection de, voilà, de belles pierres, enfin, etc. Là, c'est pareil. Il se donne à la peinture. Il travaille avant le travail, le sport, je l'ai dit, c'est une espèce de fibre d'aristocratie victorienne. Le sport, toujours droit, l'effort physique, pas de graisse. Hein, là c'est, il faut être mince, et c'est ce qu'il est. Il a toujours un corps athlétique. Mais dans la nuit du 6 juillet 1930, eh bien, il est dans son fauteuil, très droit, et la mort le surprend, à 8h30 du matin, voilà. Et toute sa vie, c'est peut-être ce terme que j'abuse peut-être, mais droiture et honnêteté, qui lui a peut-être été aussi aspiré par sa mère. Ouais. Il meurt comme il a vécu, droit comme un i, on va dire. Je vais faire une petite citation peut-être, j'en avais mis d'autres, mais à propos de sa femme Louise, qui est très émouvante, la poupée, quoi, mais poupée au sens enfant, un petit peu un côté enfantin. Lorsqu'elle est morte, lorsqu'il découvre qu'elle a la tuberculose et qu'il va s'acharner à la soigner, elle va vivre 13 ans. Hein. J'ignorais, écrit-il, à quel point l'amour d'une femme est capable de purifier de toute trace d'égoïsme l'existence d'un homme. J'ignorais avec quelle facilité on peut être généreux lorsqu'on a près de soi la présence d'un être pour qui la générosité est une chose toute naturelle. Voilà. Donc, j'aurais pas le temps. J'avais mis d'autres citations parce que ça illustre bien un personnage. Voilà. Par exemple, quand il part en Afrique du Sud, pour la guerre contre les Boers, sa mère est contre, enfin, elle s'inquiète, et il lui écrit, ma mère, lui écrit-il, entre guillemets, il la cite, m'a enseigné le patriotisme. Il lui dit, tu ne peux donc pas t'en prendre à moi. J'ai le sentiment d'avoir sur la jeunesse plus d'influence que quiconque en Angleterre, excepté Kipling. Dans ces conditions, je dois lui servir d'exemple. Voilà. Patriotisme et goût de l'aventure. Voilà. Donc, c'est un beau personnage, Conan Doyle, et encore une fois, il est éternel par le personnage principal qu'il a créé, par ce fameux Sherlock Holmes qui est toujours vivant. Donc je pense qu'il me reste peu de temps. Alors, simplement, en conclusion, on peut relater les dimensions du personnage, hein. On a dit médecin, quand même, faculté d'Édimbourg, un bon médecin en son temps, écrivain, alors bien sûr il a écrit dans tous les genres les romans historiques qui étaient sa passion, mais le polar qui a été son succès, hein, à la fois alimentaire, mais où il a excellé. Alors, l'aventurier, il a parcouru le monde, et puis l'homme engagé, qui demande la justice pour les victimes, voilà, qui se bat pour des cas particuliers, ou qui condamne, par exemple, on a parlé du Congo, du scandale de la colonisation du Congo par la Belgique, voilà. Et puis le spirit, hein, qui cherche le contact avec les morts dans l'au-delà, voilà. Donc, personnage fascinant. Je n'y reviens pas, son héros principal est le couple d'ailleurs de héros, Sherlock Holmes et Watson. Alors, Sherlock Holmes, il y a une petite ambiguïté. D'ailleurs, je crois que c'est dans un roman Vie privée ou dans le film. Est-il homosexuel? On ne sait pas. C'est un célibataire éternel, comme l'était Hercule Poirot. Je fais le parallèle avec Agatha Christie. Et puis, il y avait aussi Miss Marple chez Agatha Christie. C'est toujours des célibataires. Et là, Sherlock, c'est un célibataire. On ne sait pas. On le voit dans le film. Où, à propos de Tchaïkovski, alors c'est une scène de ballet, enfin je ne raconte pas le film, et, Watson est en colère contre justement Sherlock, Watson le médecin, hein, le complice qui est parfait, qui accompagne, c'est un peu le Candide à côté du fin Sherlock, qui a un esprit de déduction génial, un sens de l'observation plus qu'aigu, quoi, qui détecte tout. Et Watson, c'est l'homme normal. Et Sherlock a fait passer Watson pour un homosexuel, me semble-t-il. Et alors, colère de Watson, et il y a un échange qui crée l'ambiguïté. Tchaïkovski avait été évoqué parce que nous avions été à un ballet sur la musique de Tchaïkovski à Londres. Et Sherlock lui dit, mais Tchaïkovski, qui était homosexuel, n'est pas forcément un cas isolé. Donc il y a une allusion peut-être à lui-même sans aller plus loin. Et puis Sherlock aussi, c'est un il consomme l'opium, hein, c'est un opiomane. Voilà. Donc c'est un personnage qui a son mystère, son ambiguïté. C'est ce qui fait bien sûr son charme aussi, son attrait. Alors, avant de vous passer, donc on va s'arrêter là pour Conan Doyle. En fin d'émission, je vous passerai la chanson du dessin animé, une petite chanson un dessin animé Sherlock Holmes en italo-japonais. C'est une chanson en français. Et il me reste un peu de temps. On va peut-être la passer, la chanson. Et puis je vous ferai la petite séance confessionnale que je vous avais annoncée pour terminer. Donc, petite musique, la chanson de Sherlock.
Cherchez, cherchez, loup.
Sherlock Holmes, peut-être que son œuvre très connue, mais beaucoup le sont, c'est le chien de Baskerville, hein, le chien des Baskerville. Voilà. C'est un chien, on sait vaguement, c'est un chien, cette espèce de monstre. Ça évoque aussi la bête du Gévaudan, voilà, si on peut dire chez nous. C'est un monstre, on sait pas ce que c'est, si c'est un chien, un loup, mais on s'aperçoit à la fin de l'histoire, de mémoire, hein. il y a le film, bien sûr, et puis, bien sûr, il vaut mieux lire le roman. Il s'avère que c'est un crime ordinaire, c'est la raison qui prévaut. Hein. Le monstre n'est pas un monstre, c'est un homme déguisé en monstre. Hein, voilà. Et d'ailleurs, pour la bête du Gévaudan, c'est dans le film aussi qu'il y a eu une adaptation, on va dire, inspiré par l'événement, il s'avère que c'est une interprétation aussi, que ça aurait été un homme déguisé en bête, voilà, qui utilisait la défroque de l'animal pour commettre ses crimes. C'est le cas dans le chien de Baskerville. Le monstre est démasqué, si on peut dire. C'est un criminel, un homme, un tueur, hein, tout simplement. Voilà. Alors je vais faire ma petite séance pour revenir sur la précédente de mardi 14. Alors par exemple, je crois que j'ai dit une bêtise, mais enfin, j'ai évoqué Claude Allègre, tu sais. Alors j'ai dit qu'il était ministre de Mitterrand, il était ministre de Hollande, hein. Entre 2012 et 2017, hein, ministre de François Hollande. Alors sur VGE, là aussi ça a mangé les phrases, il y a eu un petit problème technique dans la diffusion. Alors il a bien été, c'est sa carrière de ministre des Finances, c'était au sujet des grands ministres, des ministres, grands serviteurs de l'État. Eh bien, une émission antérieure, la dernière c'était un retour, un flashback, et puis les deux précédentes c'était sur les reines de la République. Alors, sur les grands ministres, VGE était un grand ministre des Finances, il n'y a pas de doute, hein. 62-66 de Gaulle, il a servi de Gaulle, de 69 à 74, il a servi Pompidou, et antérieurement, en 59-60, il avait été secrétaire d'État aux finances, hein, voilà. Et puis alors, Robert Schuman, hein, ne pas confondre avec Maurice, qui faisait partie des Français libres, pote de Gaulle, qui fut ministre des Affaires étrangères, hein, de Gaulle après 58, hein, on le sait. Là, il s'agissait de Robert Schuman. C'est le traité de la CECA du 18 avril 1951. Voilà. Alors, au sujet de Dreyfus, j'avais dit que la gauche était dreyfusarde. J'avais évoqué, en simplifiant à outrance, j'avais mis l'Église, l'armée, les institutions anti-dreyfusarde, anti-Dreyfus, et la gauche pro Dreyfus, c'était faux, hein. Je veux dire, c'était simplificateur. La gauche n'était pas tellement, elle était indifférente. Le parti socialiste était indifférent à l'époque. Hein. Pourquoi ? Parce que et les syndicats étaient indifférents, parce qu'on considérait que c'était une querelle de bourgeois. Dreyfus était un grand bourgeois, voilà. Et on a ce propos de Jean Jaurès d'ailleurs, qui fustige, qui lui est pour Dreyfus et qui écrit, bien sûr, et qui est révolté par cette attitude. Parce que pour Jaurès, toute victime mérite d'être défendue. Il n'appartient plus à sa classe. Il est sorti de sa classe. C'est une victime. On doit le défendre. Et on citera Zola aussi, j'en ai assez parlé. Là, on peut faire le rapprochement aussi avec Conan Doyle, le fameux J'accuse de Zola, qui prend des risques pour défendre Dreyfus, qui attaque aussi l'injustice, qui défend la victime. Hein. Voilà. Alors, petite anecdotiquement, j'avais parlé à propos des grandes dames, des premières dames, pour y revenir, j'avais évoqué en aparté les présidents célibataires. Alors, je n'avais pas cité, là c'est un peu différent, c'était un veuf, René Coty, qui a été 54-58. René Coty, donc, il était veuf, sa femme, ils étaient très populaires, sa femme était toute simple, apparemment. Germaine, elle est morte un an après, en 55, voilà. Et donc c'est un veuf qui a fait son septennat, enfin pas le septennat, il a remis les clés de l'Élysée à De Gaulle, si on peut dire, voilà, en 58. Voilà. Donc je crois que là maintenant on est venu au bout du temps. On va vous repasser un petit bout de la petite comptine enfantine là sur Sherlock Holmes. À bientôt, chers amis auditeurs, chers auditeurs et amis.